الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإخوتي في الله، ما زلنا مع قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله. ونحن في الحديث الثالث عشر، الحديث الثالث عشر. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما. نعم. Qui est-ce qui a le livre en français? Tu l'as, Samir, vas-y.
Abdullah ibn Amr radiallahu anhu a dit: un homme concernant l'émigration. Cependant, il avait laissé ses parents en pleurs. Le prophète, alayhi salam, lui dit: retourne auprès d'eux et tout comme tu les avais pleurés, fais-les rire.
Ahsant, barakallahu fik. Idhan, يقول هنا الشيخ رسلان حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فأضحكهما، من الإضحاك، أضحكا يضحك إضحاكا، أي بدوام صحبتهما وببقائك معهما. أضحكهما بدوام صحبتهما وببقائك معهما، كما أبكيتهما بفراقك إياهما. إذا لم يكن الجهاد فرض عين فلا يجوز الخروج بدون الاستئذان من الأبوين. دونك يجي الشيخ رسلان حفظه الله: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là, il a dit quoi? Irji ilayhima, retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents, wa adhikhuma, et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Donc ici, le verbe adhaka, faire rire, il signifie ici l'injonction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'intention de cet homme-là de retourner avec ses parents et de rester avec eux. Et il fait les rires, c'est-à-dire retourne auprès d'eux et reste avec eux. Reste avec eux. Comme tu les as quittés et que ton départ a causé les pleurs de tes parents, il lui a dit: retourne auprès d'eux et reste avec eux car tu les as fait pleurer, donc maintenant retourne chez eux et fais-les rire, c'est-à-dire reste avec eux et réjouis-les. et fais qu'il soit satisfait de toi. Et ça, bien sûr, il dit le Cheikh, lorsque, ici c'est par rapport donc à l'Hijra, qui était faite pour justement aller sur le champ de bataille avec les musulmans, lorsque cet acte-là n'est pas une obligation individuelle. Parce que si c'était une obligation individuelle, il aurait été obligé de partir. Même si cela n'aurait pas plu à ses parents. Mais ce n'était qu'une obligation qui faille. Vous vous rappelez? Hein? Qui nous rappelle, Inch'Allah? Younes. L'obligation individuelle, qu'est-ce que c'est? Fard'a'in. C'est-à-dire? C'est ça, non? C'est-à-dire? C'est pas clair. Le jdid. Ah. Samir. Ça, c'est un exemple. Explique-nous ce qu'est Fard'a'in, l'obligation individuelle. Non. Non. C'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a demandé à chaque individu de la communauté. Parmi les musulmans, bien sûr, mukallaf, responsable, majeur, etc., etc. Enfin, majeur, pubère. D'accord? C'est bon? Wa farad kifaya? Vous dit?
Si
personne
ne se lave le mort, tout le monde prend le péché.
Non. Non, hakada. Donc, Fard'a'in, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a ordonné à chaque individu. As-salat, as-zakat, al-hajj. As-siyam, somme ramadan. Chaque individu, mukallaf, bien sûr, mukallaf. Il est concerné par cet ordre. Alors que Fard Kifaya, Allah Jalla wa Ala, lam yatlubhu illa min majmu'in, min al-mukallafin. Il a ordonné qu'à un groupe parmi les mukallafin. Donc si un groupe s'en charge, cela décharge les autres. Tels que l'adhan, tels que as-salat ala al-janaza, wa hakada. Mais comme il a dit le frère, si personne ne s'en charge, on est tous dans le péché. On est tous dans le péché, t'as vu? Donc là, il dit le cheikh, si ça avait été un fard'a'in, il n'aurait pas eu besoin de demander la permission à ses parents. Da'wa ila Allah Azza wa Jal. Les ulama disent da'wa, da'wa tul kuffar, fard kifaya. Da'wa tul kuffar, fard kifaya. Le fait d'appeler les kuffar à l'islam, etc., c'est une obligation, ils disent collective, kifaya. Kifaya. Hein? Lakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, balliru anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. D'ailleurs, ça veut dire qu'à la musulmane, yani, yad'ou. Et il commence par ses proches. Il commence par ses proches. Il faut qu'il appelle. Il faut qu'il appelle à l'islam. Il appelle à la sunna. Naam. Naam. Donnez l'aide à l'abawain. Donc lorsque l'acte en question est une obligation collective, donc elle n'est pas une obligation individuelle. Ici, on parle de le djihad, d'accord? Fi sabilillah, shar'i. Tu n'as pas le droit de partir sans demander la permission à tes parents. Obligatoire, d'accord? Et la preuve, c'est ce hadith. Comment? Non, les ulama disent non. Si c'est des koufars, non. Si c'est des koufars, non. Parce que si c'est des koufars, ils vont te s'ils te l'interdisent, ils ne vont pas te l'interdire. Ils vont peut-être te l'interdire pour justement ne pas aider l'islam à se propager et à se diffuser. Donc leur intention serait mauvaise. Dans ce cas-là, non. D'accord? Non. Allahu a'lam. ما يؤخذ من الحديث أولا عدم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تورط في ذلك وهو دليل على أن هذا الرجل كان متطوعا ولم يكن الجهاد فرض عين عليه. Premièrement, ce que l'on tire du hadith, le fait que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'a pas accepté l'allégeance de cet homme-là, qui, s'il était parti justement sur le champ de bataille avec les musulmans, il se serait retrouvé dans une situation compliquée par rapport à ses parents. Par rapport à ses parents. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a refusé son allégeance par rapport à ça, pour pas qu'il se retrouve dans une situation de conflit avec ses parents, et pourquoi qu'il laisse ses parents en pleurs ou insatisfaits de lui. Et bien sûr, comme on a dit, lorsque la chose n'est pas une obligation individuelle mais collective. طيب. الثاني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين وتأكيد إرضائهما. Deuxièmement, l'attention qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des parents. À l'encontre des parents. Et le fait qu'il ait insisté énormément sur le fait de les satisfaire. Sur le fait de les satisfaire, même si cela amène à délaisser une des plus grandes adorations de l'islam. Taïb. Thalithan, wujubu islah il khata. فإن الرجل لما تورط في هذا الأمر أصلح له النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي تورط فيه. Troisièmement, l'obligation de corriger l'erreur. Lorsqu'une erreur a été faite, on se doit de la corriger. Car cet homme-là, en voulant partir, il aurait commis une erreur à l'encontre de ses parents. D'accord ? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à corriger son erreur et à lui dire non, retourne auprès d'eux. Il a bien fait comprendre que s'il partait, il aurait commis une faute vis-à-vis de ses parents. D'accord ? Donc, on doit corriger l'erreur comme l'a fait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, at-tarhibu min ibka'il walidain wal-hirsu ala idhaakihima. Quatrièmement, le fait de s'éloigner et d'éviter un maximum le fait de faire pleurer les parents. D'accord ? Et au contraire, s'efforcer et de faire tout son possible pour les réjouir, les faire rire et faire rentrer la joie, yani, dans leur cœur. Aïna. Khamisan. فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما. Cinquièmement, le mérite de la bienfaisance ou la bienveillance envers les deux parents et le droit qu'ils ont, qui est un droit qui est gigantesque, et également la récompense, elle aussi elle est gigantesque, la récompense de celui qui est bienveillant envers eux. Sadisan, bayanu mada shafaqatil walidi ala waladihi dhakaran kana aw untha wa anna al walidayni ala sabil al dawam yatakhawafan ala al walad min al shurur. Sixièmement, ce hadith nous montre une chose aussi qui est la compassion énorme que le père, ou même la mère, bien sûr, ressent pour son enfant. Que son enfant soit un garçon ou une fille. Et que les parents ont constamment peur pour leurs enfants. Ils ont tout le temps peur. Ils craignent, même s'ils sont adultes, responsables, mariés avec des enfants, ils continuent à avoir peur pour eux et à s'inquiéter. Et à s'inquiéter. Que leur enfant ou leurs petits-enfants soient touchés par un mal quelconque. Taïeb. Cela nous montre donc la compassion énorme que les parents ont pour leurs enfants. Et alhamdoulilah, ceux qui ont des enfants, yani, savent très bien de quoi le shir, il veut parler. Sabi'an, al-ta'kidu ala birr al-walidain bidouni taswif wala mumatala wala mumatalatin fil qiyami bihuquqihima. Septièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la bienfaisance envers les deux parents bidouni taswif, c'est-à-dire sans reporter la chose en disant je ferai cela plus tard, je ferai cela demain, j'aiderai ma mère demain, je ferai ça pour mes parents plus tard. Bidouni taswif. La bienveillance envers les deux parents doit se faire au moment où tu peux le faire. Bidouni taswif. Sans reporter la chose et repousser la chose au lendemain, comme on dit. Non. Leur droit, il est mu'akkad. Il est affirmé, confirmé. Et le prophète, il a insisté dessus. Taïeb. Thaminan. Anna al-hasana yukaffiru Allahu biha sayyi'a. Kama qala ta'ala inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam u'atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Al-hadith. Naam. Al-hadith عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وحسنه الألباني رحمه الله. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. قد أبكيتهما فأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنة هنا الإضحاك أو الرجوع إليهما. Donc, huitièmement, le fait que la bonne action, elle expie la mauvaise action. La bonne action expie la mauvaise action. Comme il a dit Allah Tabarak wa Ta'ala dans le sens rapproché, certes, les bonnes œuvres font partir les mauvaises. D'accord. Comme il a dit également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et fait suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. Fait suivre la mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. Il y a plein de bonnes actions qui effacent les mauvaises actions, ikhwan. As-salat, as-siyam, birr al-walidain, énormément de choses qui effacent les mauvaises actions. Et cela est clair également dans ce hadith. Lorsqu'il lui dit, irji ilayhima, retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Donc le fait qu'il les ait fait pleurer, c'est ça la mauvaise action. Donc pour l'effacer, cette mauvaise action-là, retourne auprès d'eux et fais-les rire. Car cette bonne action-là, Inch'Allah, t'effacera et expiera ta mauvaise action qui a été faite. D'accord. Et ça, c'est un morceau d'un hadith, en fait, rapporté par Abi Dharr, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ittaqillah haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Wa haythu ici, haythu, c'est pas seulement l'endroit mais c'est zaman. C'est-à-dire où que tu sois et à n'importe quel moment, crains Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Parce que le hayth, ça désigne le makan mais aussi le zaman. C'est pas que le makan hayth. Atbi'a as-sayyi'a, il fait suivre la mauvaise action par la bonne il effacera. Wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens, hein, d'un bon comportement, d'une bonne manière. Donc le hadith, il a été rendu hasan par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Tasi'an, anna birra al-walidayn afdal min 'amal al-jihad wa aqdamu fi mizan ash-shar' min 'amal al-jihad fi sabilillah wa min al-hijra. Puis il dit, neuvièmement, la bienveillance envers les deux parents est meilleure que le djihad. C'est mieux que le djihad. Et dans la balance religieuse, la bienveillance envers les parents, elle est prioritaire. Elle est prioritaire, elle est supérieure que le djihad fi sabilillah ou le hijra. Ou le hijra. طيب نعم c'est pour ça qu'on a, comme on a dit, si tu peux faire la hijra mais que tes parents ne peuvent pas faire la hijra par exemple et qu'ils ont besoin de toi, hein, ils ont besoin de toi, tu dois rester avec eux. Tu fais pas la hijra, tu restes avec eux. Pourquoi? C'est birr al-walidain muqaddam ala al-hijra fi mizan ash-shar. نعم dans ce cas précis. طيب فننتقل إلى الحديث الرابع عشر يقول حدثنا أي يقول البخاري حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديكي قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله ورضي عنك كما بررتني كبيرا قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن أو عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو Samir.
Selon Abu Hazim, Abu Mura, l'esclave affranchi de Hani, bin Abu Talib, a dit, je suis parti avec Abu Hurayra, radiallahu anhu, sur ses terres à Al-Haqiq. Lorsqu'il parvint, il dit à haute voix, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô ma mère. Elle répondit, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Il lui répondait, qu'Allah te fasse miséricorde, comme tu m'as éduqué en étant enfant. Elle répondait alors, ô mon cher fils, qu'Allah te récompense en bien et qu'il soit satisfait de toi pour ta bonté envers moi, maintenant que je suis devenu âgé. Moussa a dit, Abu Hurayra s'appelait Abdallah ibn Amr.
Ahsant, barakallahu fi. Idhan daraja al-hadith Hassanul Isnad. Rijal al-Isnad Abdurrahman ibn Shaybah هو عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة وقيل ابن محمد ابن شيبة الخزامي أبو بكر المدني. Donc le premier rapporteur de qui l'imam al-Bukhari a entendu ce hadith, il a entendu de la bouche de عبد الرحمن ابن شيبة. عبد الرحمن ابن شيبة, le fils de شيبة. Mais en fait شيبة c'est pas son père, parce que lorsqu'on dit un tel, fils d'un tel, des fois on l'affilie au grand-père, des fois même à l'arrière-grand-père, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps au père. Ibn Tayyib Naam. Donc là en fait son père il s'appelait Abdel Malik, Abdurrahman ibn Abdel Malik ibn Shayba. Donc Shayba c'est le père de son père, Certains disent également que son père s'appelait Mohammed. Donc ils divergent sur le nom de son père. Al-Muhim, il est connu par rapport au nom de son grand-père, Ibn Shayba. Tayyib, Abu Bakr al-Madani. Thumma, Ibn Abi al-Fudayk. Ibn Abi al-Fudayk. Huwa Mohammed Ibn Ismail. Ibn Muslim Ibn Abi Fudayk. Eh na'am. Al-Diyali Abu Ismail al-Madani. Donc là, c'est que des gens de Médine. Là, c'est que des gens de Médine. Al-Madani. Donc lui, on l'appelle Ibn Abi al-Fudayk, le fils de Abi al-Fudayk. Mais encore une fois, Abi al-Fudayk, ce n'est pas son père. Parce que son père, c'est Ismail. Il s'appelait Ismail. Et son grand-père, il s'appelait Muslim. Donc là, on l'a affilié à son arrière-grand-père. On l'a affilié à son arrière-grand-père. Mohammed, en fait, c'est Mohammed Ibn Ismail, Ibn Muslim, Ibn Abi al-Fudayk. C'était aussi un Médinois, Madani. D'accord? Puis, après lui, on a Moussa. C'est qui Moussa ici? C'est Moussa ibn Ya'qub. Moussa ibn Ya'qub, ibn Abdullah, ibn Wahab, ibn Zuma'a. Az-Zuma'i, Abu Mohammed al-Madani. Encore un Médinois. Encore un Médinois. Donc c'est un hadith ici spécial Médine. D'accord? Qui lit le rapport de Abu Hazim. Abu Hazim, sa kunya, mais son prénom c'est Salama. Salama ibn Dinar. Salama ibn Dinar. Qui lit le rapport de Abu Murra. Abu Murra qui était donc l'esclave de Umhani. Umhani, qui fait partie des sahabiyats, radiyallahu anhun, qui est la fille de Abu Talib. C'est la fille de Abu Talib. Donc c'est la sœur de qui? C'est la sœur de qui? D'Ali. Umhani, c'est la sœur d'Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Qui a informé, donc Abu Murra, il a informé que un jour il est parti avec Abu Huraira, radiyallahu anhu, à une terre appelée Al-Aqiq, donc la terre d'origine d'Abi Huraira. Il était de là-bas. Et Al-Aqiq, ils disent que c'est à peu près 6 amiel. 6 amiel, ce qui faisait à peu près combien de kilomètres? 9, 9, on a dit qu'un mille, c'est combien un mille? 1,6, un mille. Voilà, à peu près. Allez, 7, 8. Allez, 8. Hein? À peu près 8, 10 kilomètres en arrondi. De El Medina. Et quand il est entré sur le territoire, donc El Aqiq, il a élevé la voix, il a crié en disant, en s'adressant à sa mère, Alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc il a salué. Hein, avec la salutation de l'islam, de la meilleure des manières. Alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh, ya ummata. Ya ummata. Il y en a vu que ummata ici, c'est une expression, au lieu de dire ummi, tu peux dire ummata pour élever ta mère, pour lui montrer justement ce sentiment-là d'élévation pour l'élever. Et de respect profond, tu lui dis Ya Ummata. Comme tu pourrais dire à ton père Ya Abata. Ya Abata. Ya Abati, non? Ya Abati. Tu peux même rajouter les alif Ya Abata. D'accord? Non.
Ya Ummati, tu peux pas.
Ya Ummati? Ya Ummat, non? Ya Ummat. Non? Ya Ummat. Donc le ta, c'est un signe d'élévation aussi. Le alif également, et tu peux assembler les deux, associer les deux, ça donne Ya Ummata, Ya Abata, wa hakada, Ya Ukhta, oh ma chère sœur, et ainsi de suite. Taïb. Mouhim le hadith, on l'a cité tout à l'heure en français, alhamdulillah. Ma'ani al-kalimat. Ma'ani al-kalimat. العقيق المذكور هاهنا هو عقيق المدينة الذي قيل فيه إنه واد مبارك, إنه واد مبارك, وهو ببطن وادي ذي الحليفة. Donc العقيق c'est le nom d'un endroit, d'une vallée qui se trouve donc à quelques kilomètres, comme on a dit, d'Al-Médina. Et il est connu que cette vallée-là, elle est mubarak. C'est une vallée qui est bénite. Qui est bénite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui se trouve dans la vallée de Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa. Hein? Ceux qui ont fait le Hajj al-Umra, ils savent de quel endroit on parle, Dhul-Hulayfa. Taïe. Kama barartani. Donc il lui a dit, ou plutôt sa mère lui a dit, et toi, qu'Allah te récompense en bien et sois satisfait de toi comme tu as été bienfaisant envers moi alors que je suis âgé. Alors que je suis âgé. Kama barartani, ay kama ahsanta ilay wa qumta bi birri kabiran. هكذا الفقه في الدين الإسلامي يجر صاحبه إلى كل خير وبر وفضيلة. فأبو هريرة رضي الله عنه يبذل السلام على أمه بأعلى صوته لتسمعه, لكي تسمعه, فترد له التحية بمثلها, لأن السلام دعاء. أنت إذا سلمت على أخيك دعوت له بالسلامة والرحمة والبركة, ورد التحية كذلك الدعاء, فهو يشعرها بأن لها الفضل في تربيته وهو صغير لا يملك لنفسه جلب خير أو دفع شر ولا يميت الأذى عن نفسه, فهي تتولى كل ذلك وهو صغير. وهكذا طيلة حياته وحياتها هي دائما إحسانها متواصل إلى ولدها لا ينقطع أبدا, لا ينقطع. كما قلنا شفقة الوالدين على أولادهما على سبيل الدوام, على سبيل الدوام يتخوفان على الوالد من الشرور. Donc كما بررتني. Donc sa mère, elle lui a dit « Kama barartani wa anta jazakallahu khayran wa radhiya anka kama barartani kabiran. » C'est-à-dire « Comme tu as été bienfaisant envers moi et comme tu as été bienveillant envers moi alors que je suis âgé. » Il dit le shaykh, cela nous montre le fiqh, c'est-à-dire la science ou la bonne compréhension religieuse de la personne. Car la bonne compréhension de la religion, une science qui est comprise de la personne et mise en pratique, elle va faire elle va la pousser à accomplir le bien et à accomplir des bonnes choses et à posséder des vertus. Donc Abu Huraira radiallahu anhu, il a passé le salam à sa mère en élevant sa voix, dans le but que sa mère l'entende. Et sa mère a répondu à son salam d'une manière identique. Car le salam, c'est une invocation. Quand tu passes le salam à ton frère, à ta mère, à ton père, tu invoques pour lui. Tu demandes à Allah Tabaraka wa Ta'ala as-salam. la préservation. C'est une dua, c'est pas juste bonjour, hein, au revoir, bonsoir. Non, c'est une invocation. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala la préservation, le salut. Et le fait de rendre le salam, bien sûr, c'est une invocation aussi. Et quand Abu Huraira a fait ça, lorsqu'il a élevé sa voix et qu'il a passé le salam à sa mère de la meilleure des manières, c'est pour qu'elle ressente le mérite qu'elle a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle ressente tout le bien qu'elle lui a prodigué alors qu'il était encore tout petit. Il voulait qu'elle ressente ça, qu'elle sache qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a une récompense énorme, bi'idhnillah azza wa jal. À travers juste un simple salam, il a voulu faire ressentir cela à sa mère. À travers un simple salam. D'ailleurs, pour lui dire qu'elle a un mérite énorme du fait qu'elle a éduqué alors qu'il était tout petit, hein, un enfant qui n'est pas autonome, d'accord, qui ne peut pas aller chercher ce qui est bénéfique pour lui ou repousser ce qui est mal pour lui de lui-même de manière autonome et indépendante, et qui a donc et qui est donc dépendant de ses parents, de sa mère et de son père. Et du coup, la mère, c'est elle qui se charge de ça. C'est elle qui est responsable et qui s'est chargée de son enfant quand il était enfant, de le nourrir, de l'habiller, de l'éduquer, de le soigner, de l'éloigner du mal, d'aller chercher ce qui lui est bénéfique. C'est elle qui s'occupe de tout cela. Et le père, bien sûr. Et cela n'est pas limité à l'enfance, en vérité. Les parents sont comme cela tout au long de la vie. Tout le long de leur vie et de celle de leurs enfants, eh bien, ils font les causes et ils se chargent de s'occuper d'eux et de leur amener ce qui est bien pour eux. Tila hayati al-awlad. Comme on a dit, donc, ils sont constamment et perpétuellement, hein, dans la compassion vis-à-vis de leurs enfants. Et cette compassion-là, elle n'est jamais interrompue. Même si l'enfant, il est âgé, il a des enfants, il a sa propre famille, et tu vois que ses parents, ils sont toujours derrière lui, ils s'inquiètent toujours, c'est vrai ou pas? Tout le temps inquiet. Est-ce que tu as... C'est bon, tu as de quoi subvenir à tes besoins? Les enfants, ils ont besoin de rien, les petits-enfants. Hein? Des fois même, ils les gâtent trop, gars. Ils les gâtent trop, les petits-enfants, c'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que leur compassion pour leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est toute leur vie. Jusqu'à leur mort, elle sera comme ça. Jusqu'à leur mort. Subhanallah. Thumma yaqul wa bi kawniha imra'atan mu'minatan shakiratan muqaddiratan lil ma'ruf alladhi asdahu ilayha ibnuha adhharat ma'rufahu wa ihsanahu ilayha wa hakadha al khuluq al hasan يفعل بأصحابه فهو لما كان بارا بها بادلته الدعاء والثناء بأنه قام ببرها عندما صار كبيرا وهي كذلك كبيرة في السن والمقصود أن وجود الوالدين على قيد الحياة وابنهما على قيد الحياة ويبذل الإحسان إليهما احتسابا لوجه الله الكريم هو خير ساقه الله تبارك وتعالى إليه فلا يقصر فيه ولا يتساهل فالأمر عظيم ويكفي أن الله تبارك وتعالى قرن وجوب طاعة الوالدين والإحسان إليهما بطاعته عز وجل في أعظم عبادة فرضها على عالم الإنس والجن ألا وهي توحيدهم ألا وهي توحيده تبارك وتعالى حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قرن بين أعظم العبادات وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وبين بر الوالدين. الله أكبر. وهذا في غير موضع من القرآن الكريم. نعم. Donc du fait que la mère de Abi Huraira radhiyallahu anha était donc une femme, déjà c'était une femme, donc de manière naturelle elle a cette compassion là envers son enfant, en plus c'est une croyante, en plus c'est une femme croyante reconnaissante, hein, qui remercie Allah tabaraka wa ta'ala et qui connaît la valeur de le ma'ruf, des bonnes actions, de la bienfaisance, de la bienveillance. Et elle reconnaissait cela donc par rapport à son fils Abu Huraira, qui a toujours été comme ça avec elle. Naam. Et donc comme elle est, elle sait tout ça, eh bien même lorsqu'elle est âgée, elle expose cette chose-là et elle montre et elle reconnaît la bienfaisance de Abi Huraira envers elle. Et elle le dit clairement. Elle le dit clairement. Et ceci fait également partie du bon comportement. C'est le bon comportement de la mère ou du père envers son enfant que de reconnaître le bien qu'il leur fait. Taïeb. Et donc, comment elle le montre? Eh bien, en invoquant pour lui. En invoquant pour lui. وَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. Regardez comment le comportement du muslim, même envers son enfant, car des fois on a tendance à cacher ses sentiments ou hein, envers son enfant, ne pas trop montrer, non. Elle a dit clairement, et qu'Allah te récompense en bien comme tu as été bienfaisant envers moi, car tu as été bienfaisant envers moi. Même si comparé à ce qu'elle a fait pour lui quand il était petit, c'est rien en vérité, comme on l'a dit. Même s'il avait porté sur le dos et qu'il avait fait tawaf autour de la Kaaba avec elle sur le dos, il n'aurait même pas remboursé hein, une respiration, vous vous rappelez? Même une respiration lors de l'accouchement, il n'aurait pas remboursé. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de reconnaître le bienfait que Abu Huraira lui a apporté et lui apporte alors qu'elle est âgée. Et tout ça en invoquant pour lui, en le complimentant, en faisant ses éloges. Alors qu'il est âgé en plus. Lui-même, il est âgé déjà, c'est plus un enfant. Elle aussi, elle est âgée. Mais malgré leur âge, ça ne les empêche pas de dire du bien les uns pour les autres, de faire des du'as les uns pour les autres. Et cela ne fera qu'augmenter le lien et la proximité entre parents et enfants. Non. Et donc, al-maqsoud, la finalité ici, c'est que lorsque les deux parents sont encore en vie et que leurs enfants également sont en vie, il faut que les enfants fassent tout pour être bienveillants, bienfaisants envers eux, bien sûr, en espérant et en recherchant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, en le faisant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est un bien qu'Allah jalla wa ala lui a fait grâce et lui a fait don. Donc le fait que ses parents sont encore en vie, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala énorme, car c'est une des plus grandes causes qu'Allah jalla wa ala lui pardonne ses péchés. C'est une des plus grandes causes qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'il se rende compte, qu'il réalise ce bienfait-là. Le fait qu'Allah jalla wa ala a fait que ses parents sont encore vivants. Et qu'il puisse donc être bienfaisant envers eux afin de se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc il ne doit pas négliger ce bienfait-là. Car c'est une chose qui est vraiment très importante. Et suffit à cela le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a associé l'obligation de l'obéissance aux deux parents et la bienfaisance envers eux à l'obligation de la plus grande adoration qui soit, qu'Allah Jalla wa Ala a rendu obligatoire aux djinns et aux êtres humains, qui est Tawhid. Qui est Tawhid. La chose pour laquelle l'être humain a été créé, qui est l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, sans associer, eh bien Allah Jalla wa Ala a associé cette adoration-là à la bienfaisance envers les parents. Subhanallah. Dans le sens rapproché, il a dit, et adorer Allah et ne lui associer rien et soyez bienfaisant envers les deux parents. Et faites preuve de bienfaisance envers les deux parents. Et cela en plus dans plus d'un verset. Ce n'est pas juste un verset. Dans plus d'un verset. Dans plusieurs versets. Yani. Taïeb. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan, al-ihtimamu بتحيه الام والاهتمام بالدعاء لها بالخير بطيب النفس وانشراح الصدر. Premièrement, l'importance que l'on doit accorder au fait de saluer la mère, de saluer la mère de la meilleure des façons. Assalamu alayk ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? On va pas dire assalamu alayk. On va dire assalamu alayk wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai ou pas? Des fois on dit assalamu alayk wa rahmatullahi wa barakatuh. On salue de la meilleure des manières quand on rencontre les frères, les amis. Et quand on rentre à la maison, presque le salam, on a du mal à le dire. C'est vrai ou pas? Alors qu'il doit être encore mieux pour la mère et le père. Au lieu de dire « Maman » ou « la Maman » ou « la Ummi », dis « Ya Ummata ». Comment on dit « Darija » C'est quoi « Darija » Pour dire « Ma chère mère » ou « la Yemma, ma chère amie, ça. Alhamdulillah. Hada ta'zim, yemma. Tayeb, alhamdulillah. Un mohim, la façon qu'ils aiment, de la façon qu'ils aiment. De la façon qu'ils aiment, bien sûr. Non. Tayeb. Et le fait d'accorder de l'importance à invoquer pour eux le bien. Hein? Wajazakillah khayran. Hada, alhamdulillah, hada. Wajazakillah khayran. يفهمون هذا بطيب النفس c'est-à-dire avec de bon cœur avec la poitrine ouverte et épanouie. اي نعم حتى لا 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 il faut leur dire يعني يا يما يعني والله انا احبك انا احبك. Parce que même le fait de dire je t'aime à sa mère, subhanallah, il y a des frères qui ont du mal. Il y a des frères qui ont du mal. Allah al-Musta'an. C'est vrai ou pas? Tu dis je t'aime à tes parents? Hein? Oui? MashaAllah. Allah mabarak. Continue comme ça, inshallah. Thaniyan, thubut ou raddi salam. وثبوت الدعاء الحسن للباد بالسلام. Deuxième faïda, bien sûr, la confirmation de répondre au salam. De ulama qui disent même que c'est obligatoire. Quelqu'un te passe le salam, tu dois rendre le salam. Taïeb, si tu ne le fais pas, tu es athim. Tu es péché. Hein? Non, rentre pas dans. Non, non, c'est autre chose. Ça dépend. Ça dépend de l'mubtadi, ça dépend. Yeah. C'est au cas par cas après. Taïeb? Non, là on parle de manière générale. On ne rentre pas dans les exceptions. Le fait de rendre le salam, wajib. Hada huwa al-asl. Et si tu ne rends pas le salam, donc, anta athim. Par contre, si la personne passe le salam à un groupe, d'accord ? S'il y en a trois qui répondent, est-ce que les autres, s'ils ne répondent pas, ils sont dans le péché ? Non, ils ne sont pas dans le péché. D'accord ? Parce qu'il suffit qu'un du groupe lui rende le salam. Ça suffit. Ce n'est pas à tout le monde de manière obligatoire. D'accord ? Alhamdoulilah. Et bien sûr, le fait d'invoquer par de bonnes invocations pour celui qui t'a passé le salam. Donc non seulement tu lui réponds au salam, wa alayka salam, tu rajoutes wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakallah khayran ya akhi. La yahfadhuk. La yara'ak. La yasaddiduk. Tu invoques pour la personne. Et non. ثالثا الاعتراف بالفضل الجميل أن يعترف الإنسان بفضل ذوي الفضل ومن صنع إليه معروفا فإذا قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كما في الصحيح الترمذي من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Troisième فائدة l'importance de reconnaître le mérite des gens. Le mérite. Et que la personne reconnaisse le mérite de ceux qui ont du mérite. Et ils doivent l'exprimer également. Ils doivent l'exprimer. Et invoquer pour la personne. Pour la personne qui t'a fait du bien, qui a été bienveillante envers toi, qui t'a rendu service. En lui disant par exemple... جزاك الله خيرا. Qu'Allah te récompense en bien. Car en disant cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Tirmidhi, rahimahullah min hadithi Usama ibn Zayd, wa sahaha al-Albani, rahimahullah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a fait du bien, qu'il dise, et qui a dit, à celui qui lui a fait du bien, à celui qui a fait ce bien-là, jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense en bien. Eh bien, il aura certes fait les éloges de la personne de la meilleure des manières. Il aura certes fait les éloges de la personne de la meilleure des manières. Taïb. Parce que des fois, on t'a rendu service, mais tu sais que tu ne pourras pas rendre l'appareil. Elle t'a rendu un grand service. Subhanallah. Elle t'a fait du bien que tu sais que tu ne pourras pas lui faire pareil. Eh bien, sache qu'en lui disant « Jazakallahu khayran », tu auras fait les éloges de la personne et tu l'auras remercié de la meilleure des manières. Walhamdulillah. Taïe. Rabi'an. Aqsa amani l'oum. أن يجزي الله ولدها خيرا ويرضى عنه. Quatrièmement, on voit dans le hadith le désir, le profond désir qu'a la mère qu'Allah Jalla wa Ala récompense en bien son enfant. Là, bien sûr, on parle de la mère croyante, musulmane, musulmane, qui a au fond d'elle ce désir profond qu'Allah Jalla wa Ala préserve son enfant, le récompense en bien et soit satisfait de lui. Aïna. Khamisan, ذكر العمل الصالح للمدعو له جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. فتدعو الله تبارك وتعالى وتذكر ما فعل. فذكرت عمله الصالح. Cinquièmement, faïda. Lorsque tu invoques pour la personne, il est bienvenu également que tu cites la bonne action qu'il a faite. Que tu cites et que tu précises la bonne œuvre qu'il a faite. Comme elle a fait la mère d'Abi Huraira. وَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. Qu'Allah te récompense en bien comme tu as été bienveillant envers moi alors que je suis âgé. Voyez ? Donc tu dis à ton frère, par exemple, qui t'a rendu service, tu lui dis وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا كَمَا فَعَلْتَ لِي كَذَا وَكَذَا. جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَاللَّهِ hein? بِمَا أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا بِمَا نَصَحْتَنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا حَفِظَكَ اللَّهُ. طيب الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
طيب فنحن الآن في باب السابع وهو باب عقوق الوالدين باب عقوق الوالدين فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا أي كان متكئا ثم جلس وقال ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. ليته سكت. سمير.
Chapitre 7, la rupture avec les parents. D'après Abdurrahman ibn Abi Bakra, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne souhaiteriez-vous pas savoir quel est le pire des grands péchés? Il répéta cela trois fois. Ils répondirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Alors il a dit: donner un associé à Allah, être ingrat avec ses parents. Puis alors qu'il était accoudé, il s'est assis et a ajouté et proféré de faux témoignages. Il ne cessa de répéter cette parole jusqu'à me dire en moi-même: ah, qu'il ne se soit tu. Non,
barakallahu fik. Donc le uquq, c'est plus vaste que la rupture. Le uquq, la désobéissance, la malfaisance, le fait de rompre les liens, bien sûr. Mais c'est pas que ça, c'est pas que la rupture. D'accord ? On le verra, bi'idhnillah, je pense. Après, le cheikh, il va détailler, inshallah ta'ala. Il y a aussi certaines notions qui sont plus précises que ça, Allahu a'lam, ou plus larges, au contraire. Al-Muhim. Darajat al-Hadith, Sahih. هذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح. Donc le hadith il est authentique. Il a été évoqué par l'imam lui-même al-Bukhari dans le Sahih et également par l'imam Muslim dans son Sahih. طيب. نعم. وقال حدثنا مسدد. L'imam Bukhari l'a rapporté de Musaddad. Et on a vu déjà qui était ce rapporteur, Musaddad ibn Musarhad, rahimahullah. Qui l'a rapporté de Bishr ibn al-Mufaddal, ibn al-Mufaddal, ibn Lahik Abu Ismail, qui fait partie donc des plus importants et des plus connus rapporteurs de hadith et parmi les Huffaz, les plus grands mémorisateurs de hadith et fiables. Al-Jurayri, qui s'appelle Saïd ibn Iyas. Saïd ibn Iyas, qui fait partie des rapporteurs fiqa, fiables, mais sa mémoire, elle a commencé à changer avant sa mort. Trois années avant sa mort, sa mémoire, elle a commencé à changer. À être moins bonne, à diminuer. Donc, du coup, les hadiths, on doit regarder si Al-Jurayri, il l'a rapporté avant ces trois ans-là, avant sa mort, ou après ces trois ans. Si on voit que dans l'histoire, dans l'historique, on voit qu'il a rapporté après les trois ans avant sa mort, le hadith, on ne le prendra pas. Parce qu'on dira qu'il a été atteint de quoi ? Ikhti. On l'a vu la semaine dernière. Ikhtilat. On dit que le rapporteur, il a été atteint bi ikhtilat. Tu te rappelles ? Ikhtilat. Ikhtilat, c'est quoi l'ikhtilat ? C'est en fait le fait que le rapporteur, à la base, il est hafiz, lakin, yatraw alayhi sou'l-hifz. Sou'l-hifz, tra alayhi, li sabab in al-asbab. D'accord ? À la base, c'est quelqu'un de fiable, un rapporteur fiable, hafiz, qui a une très bonne mémoire, dont on prend le hadith, mais à un moment dans sa vie, il a été atteint par la vieillesse, une maladie, quelque chose qui a fait que sa mémoire est là, elle a diminué, elle a été endommagée. D'accord ? On dit qu'il a été atteint de ikhtilat. Thumma Abdurrahman. Hein ? Non, c'est n'importe quelle cause. Ça peut être une maladie, Alzheimer. C'est quoi l'Alzheimer ? C'est quand tu perds la mémoire. Voilà, ça peut être ça. Par la vieillesse qui fait que voilà. Après, c'est pas toutes les personnes âgées qui sont atteintes de ça. Hein. Il y a des personnes âgées qui gardent une mémoire excellente jusqu'à leur mort. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui soient atteints par ça. Abdurrahman ibn Abi Bakra, huwa awwalu mawlud fil Islam bil Basra. Abdurrahman ibn Abi Bakra, huwa awwalu mawlud fil Islam bil Basra. Puis on a Abdurrahman ibn Abi Bakra, qui est le premier enfant né dans l'islam à Bassora, en Irak. D'accord ? Quand l'islam est apparu, le premier enfant qui est né dans la période islamique, donc après la Jahiliya, à Bassora, en Irak, c'était c'est Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il est connu pour ça. Et son père, Abu Bakr, qui est un des compagnons de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr. D'ailleurs, وإنشاءالله نختم بهذا الأمر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر vous informerai-je du péché kabira du péché majeur le plus grave du péché majeur le plus grave qui nous rappelle c'est quoi un kabira inshallah on finit sur ça hein quoi ما هي الكبيرة ما هي الكبيرة Oui.
Comme c'est sous la menace de châtiment, tu peux même pécher que tu es sous la menace d'un châtiment.
Naam, ça en fait partie. Naam, c'est vrai. Seulement, ou il y a encore d'autres critères. Il y a d'autres critères. Bilal. Pour dire qu'un péché, c'est un péché majeur, un kabira, qu'est-ce qu'il faut?
La peine d'égal.
La peine d'égal, fit dunya, naam.
La colère d'Allah,
c'est-à-dire
où il y a le malheur.
La colère d'Allah, non. Quoi encore?
Il y a le désavouement de la personne.
Ahsant, le désaveu, non. Hein? C'est tout, Ikhwa? L'ana, la malédiction. Al-Azab, Al-Wa'id. Taïeb? Il y en a combien de kabira? Kabair, il y en a combien? Kamina le kabair? Combien? 7? 7? 10? 10? Yallah, on est aux enchères ou là? Là. Le kabair kathira. Kathira tun jidda. Hein? Fa kama kultum, le kabira, hiya kullu dhanbin yatarattabu alayhi. ماذا اولا حد في الدنيا حد في الدنيا وعقوبه في الاخره فهي كبيره او كل ذنب يختم بلعنه او بغضب مثلا طيب لكن هي كثيره جدا وليست محصوره في السبع الموبقات أو في التسع الموبقات كما ورد في حديث ها ما الكبيرة قال هي أو هن تسع وأعظمهن الإشراك بالله لكن هل معنى أنها محصورة في التسع أو في السبع لا يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر وقال أسبع هي أسبع هي قال هي إلى السبعين أقرب ويروى أكثر من ذلك سأله سائل آخر وقال هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبعمائة خير إن شاء الله أي نعم إذن كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا عقوبة في الآخرة لعنة غضب عذاب شديد وعيد فهي من الكبائر donc un كبير يا إخوة c'est tout péché tous les péchés sur lesquels dans le texte il est mention de une peine légale في الدنيا une peine légale comme pour celui qui a bu l'alcool, hein, comme pour Zani, ou alors dans le texte, on a la mention d'un châtiment, d'un châtiment fil akhira. Hada dalil ala anna hada dham kabira. Ça, c'est la preuve que ce péché-là, c'est un kabira. Ou alors dans le texte, on a la malédiction d'Allah, la colère d'Allah, le désaveu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un châtiment douloureux, une menace énorme pour la personne. Taïeb. Mais combien il y en a? Il y en a plein, quoi. Il n'y en a pas que 7 ou 9. Il ne faut pas croire que le kaba'ir, c'est restreint et limité que le moubiqat. Le moubiqat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y en a 7. Mais est-ce que ça veut dire que le kaba'ir, c'était les 7 seulement? Là, ça ne veut pas dire ça. Lorsque Ibn Abbas et le Athar, le Khabar, il est authentique. Ibn Abbas, il a été interrogé sur justement le kaba'ir. Il a dit le kaba'ir, leur nombre est plus proche de 70 que 7. Et dans une narration, une version, il a dit leur nombre est plus proche de 700 que 7. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le kabira, c'est ça. Taïm. Alhamdulillah. واضح الحمد لله نكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل الأسبوع القادم فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا إلى هذا المنهج القويم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.